réfléchir le stand-up et les gens qui le conçoivent. Là est le but de ce podcast. Dans tous nos épisodes, on s'évertue à placer l'humoriste dans un cocon où il prend lui-même du recul, où il réfléchit lui-même son œuvre, ses influences, etc., etc. Aujourd'hui, la question plus ou moins centrale, celle qui va rythmer en tout cas les interrogations qu'on va poser à notre invité du jour, est la suivante. Est-ce qu'il faut attendre un processus de maturation pour écrire comme du bon vin, ou faut-il tout simplement suivre son époque? Le rire du public qu'on a en face de nous est-il un rire de compassion ou un rire d'adhésion? Je suis sûr que notre invité du jour, Mirabelle de son nom, mais je suis pas sûr que c'est le vrai, Paul de son prénom, pourrait bien se les poser ces questions, car chez lui, chez un mec qui a beaucoup de talent, réfléchir son œuvre à quelque chose de sincère et même de touchant. Paul Mirabelle pour LOL Me Tender, ça commence maintenant. Salut.
Bonjour.
Ça va?
Ça va, et vous?
Bien.
Ouais. Ça fait longtemps.
Ça fait pas mal de temps. Ça fait au moins 8 ans qu'on s'est pas vu.
Ouais, ouais, exactement. Ouais. Plus, hein. Hein? Comme une impression déjà vue sur ce
oh, ouais. Ouais. C'est ça. Et la personne qui parle, la troisième personne qui parle, le troisième larron, mm-hmm. c'est Raphaël.
Oui, c'est moi.
Bonjour.
Bonjour. Et oui. Et si vous trouvez que ce début de podcast est pas très naturel, c'est parce que j'ai chié dans la colle, comme on dit. Et apparemment, il y a un début d'émission qui est pas parti.
Mais donc, non, tout va bien.
C'est ouais, naturel. Ça va. Pour qu'on le fait bien.
Pourquoi tu dis ça?
Ah ouais, c'est vrai. C'est bien ce que je dis. C'est chelou.
Avec le dernier podcast.
Ah pardon, ah, je suis désolé.
Ouais, je viens d'arriver là.
Ah, désolé.
Je regarde, je suis encore essoufflé.
Ouais, c'est ça, on entend sa respiration.
Ah bah attends, bah vas-y, prends le temps, vas-y, assis-toi. Ouais. T'inquiète. Ouais.
Surtout que Paul, tu es arrivé effectivement en retard car tu avais une scène qui s'est magnifiquement bien passée.
Yes, on va dire la vérité. Tu m'as appelé à 10h43, tu m'as envoyé un message, 42. Tu m'as dit envoie-moi un message quand t'es en bas. J'étais dans mon lit en pyjama. Et parce que la soirée d'hier a été un peu tardive, sans alcool, parce que je ne bois pas d'alcool. Mais
tu bois pas du tout?
Non.
D'accord.
Ouais, pas du bien. Tout. Je buvais vite fait avant par obligation sociale, mais en fait, j'aime pas ça, donc j'ai arrêté totalement. Et c'est juste que je me suis couché tard, c'est juste que je suis très très faible au niveau du sommeil.
Ouais.
Voilà, aucune substance illicite, juste je suis fatigué.
Parce qu'il y en a beaucoup des substances illicites dans le stand-up. Hein.
Oui, bien sûr.
Même chez des gens qui font des scènes.
Comment?
Même chez des gens qui font des scènes, qui passent sur scène.
Je sais. Ouais, peut-être qu'il y a des gens qui se détendent avec des plantes illicites.
Ouais.
On ne citera pas le nom.
C'est ça.
Mais bon, des gens qui fument sur scène aussi.
Hein. Oui, exactement.
C'est nouveau ça.
Des gens qui brûlent sur scène aussi. pour d'autres raisons.
Et ça, c'est un autre
concept. C'est un autre pointier. Oui, j'étais à l'Européen hier pour les Étoiles Espoirs Humour du Parisien, qui est une soirée où la rédaction du Parisien a choisi 10 jeunes talents. Pour venir faire un petit passage, c'est les 10 personnalités, on va dire, qui se sont un peu démarquées dans l'année, que le public connaît pas forcément, avec des guests aussi. Il y avait Manu Payet, il y avait Inès Reg, Monsieur Fraise, etc. Et ça s'est très bien passé, donc je suis content. On a tous eu notre petite une du Parisien, donc très belle soirée, mais qui a fini un peu tard. J'ai parlé avec... Enfin, c'est cool, tu vois, moi je suis encore dans le truc de croiser des gens que je regardais il y a pas si longtemps ou que j'écoutais, et je les ai croisés après, donc...
Ouais, mais tu le regardes plus avec le regard de la nouveauté, tu le regardes avec le regard de l'acceptation, te disant que tu fais partie de leur monde, définitivement, en fait.
Non, franchement, je te jure, j'arrive pas à me dire...
c'est marrant, ça.
Ouais, mais c'est pas dans le sens... j'ai pas le côté star, tu sais, il y a pas du tout l'approche « waouh, c'est machin », mais j'arrive pas du tout à me dire « c'est mes collègues, quoi ». Je suis très content. Il n'y a pas du tout la barrière de la gêne parce que c'est un tel ou quoi que ce soit, mais j'arrive pas du tout à me dire alors là, enfin, je suis encore un peu timide, quoi.
Ouais, justement, je pensais que tu t'étais affranchi, mais ça, il y a une question très écrite du coup que je vais sortir, mais j'ai l'impression que tu t'étais affranchi de cette timidité, que tu commences en fait à te trouver définitivement sur scène, à passer du nous inclusif au moi en fait de ce que tu veux dire en fait sur scène.
Bah je pense que c'est ce qu'on maintenant on l'a jamais dit parce que ce podcast n'a jamais été
je sais ce que tu dis, c'est très bizarre ce que t'es en train de dire.
Non, je pense que justement c'est l'inverse. Là je suis sur le moi, donc j'ai beaucoup de blagues d'autodérision et j'aimerais bien passer au nous inclusif, tu vois, pour pas avoir toujours pour déjà la contrainte de la mécanique de « ok, la vie, c'est comme ça, et moi, ah, nana, je fais comme ça », ce qui est marrant, mais tu peux pas faire un spectacle ou une œuvre entière sur ça. Et donc j'aimerais bien passer dans le nous et me dire, vous voyez ça, vous n'avez pas vu ça de cette façon, moi je vous le montre de cette façon, et en fait vous vous rendez compte que ça peut être marrant envisager de cette façon aussi.
La suite logique du stand-up, c'est le moi qui amène en fait vers le nous.
Ouais, et aussi tu peux, je pense que tu peux avoir, c'est Kader Aoun, moi, le metteur en scène qui m'a dit ça, que j'essaye de faire, j'arrive pas encore, mais il m'a dit qu'il faut partir d'une observation globale. Et après, tu rétrécis, enfin, tu vois, tu zoomes un peu, et ça se rapproche, justement, ça va de l'universel au personnel.
Ouais.
Mais après, ouais, ce qu'on disait, tu m'as déjà vu sur scène, donc c'est beaucoup de la vie, c'est ça, moi je fais ça, et j'aimerais bien passer sur des observations et plus de me dire, je sais pas si vous avez remarqué, maintenant, sans dire cette phrase, mais la vie, c'est comme ça, c'est assez marrant, sans forcément parler de moi et faire des blagues sur un peu d'autres trucs, quoi.
Alors tu dis, plus jeune, j'étais très timide, limite invisible, j'étais un peu décalé de par ma grande taille, on disait que j'étais marrant, mais il y avait toujours un autre garçon qui avait plus d'assurance que moi pour répéter mes blagues. Tout le monde rigolait alors que c'était moi l'auteur. Est-ce que tu penses que tu t'es affranchi justement de cette timidité? C'était un peu ma question avant, mais j'aimerais que tu répètes ta réponse. Et si oui, comment?
Bah, je suis toujours très timide.
Ouais.
Ça c'est... Je pense que ça partira pas.
Ouais.
Je suis limite plus à l'aise sur scène que dans la vie, je me rends compte de ça.
Ouais.
Je te jure, sur scène, je me lâche.
Ça veut dire que tu t'es bien trouvé, justement.
Ouais, je me lâche beaucoup plus sur scène. Enfin, c'est un grand mot, mais dans la vie, ouais, je suis encore un peu réservé.
Ouais.
Mais c'est vrai que j'ai ce souvenir, là, c'est un truc que j'avais, dont on avait parlé avec, en interview avec le journaliste du Parisien, mais j'ai vraiment le souvenir que j'étais celui qui faisait des blagues, qui faisait rire les deux, trois camarades à côté, et que du coup, il y avait toujours un gars qui avait plus d'assurance, qui faisait la même blague plus fort. Et moi j'étais là, mais c'est ma blague. Mais du coup, ça m'a conforté dans l'idée que je pouvais être marrant. Quoi,
c'est
parce
ça.
Que j'arrivais à faire rire mes camarades. Et je savais faire que ça d'ailleurs. Enfin, c'était ma plus-value, quoi, on va dire. Tu vois, il y a des gens qui étaient hyper intelligents dans la classe et tout. Moi, c'était vraiment le marrant de la classe sans jamais manquer de respect ou sans être le marrant qui fait le. Qui va voir le proviseur et tout, quoi. J'ai jamais fait de bêtises, mais j'ai toujours été le petit rigolo. Malgré moi, souvent. C'est pour ça que je parlais de la grande taille et tout, c'est que il y avait toujours un truc un peu marrant, tu vois. Mais ça m'a conforté dans l'idée que je savais que je pouvais faire rire des gens et j'avais envie de faire ça, donc je me suis dit, bon, t'as envie, tu sais un peu le faire, donc pourquoi pas continuer dans ça.
Parce que tu as choisi quelque part d'être ce mec qui dit fort les blagues et qui fait rire tout le monde. Voilà.
Ouais, il y a un moment, il a fallu justement l'assumer et passer de j'ai envie de faire ça à je vais faire ça.
Ouais.
Ça a mis du temps, je t'avoue.
Ouais.
Et il a fallu qu'il y ait des étapes de vie un peu avant pour que je me dise, ok, bon, t'as vraiment envie de le faire, donc fais-le. Et je pense que c'est souvent ce cap que les gens n'arrivent pas forcément à passer, tu vois, peu importe le domaine d'activité, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des trucs et qui se donnent pas forcément qui n'arrivent pas à le mettre en exécution. Moi, c'était un mélange de volonté et de. Chose qu'on m'a imposée, tu vois. Je voulais faire un concours d'humour et finalement, un jour, on m'a dit, bon, ben, c'est bon, t'es inscrit.
Ouais.
Donc, c'est passé d'une volonté à une obligation. J'avais plus le choix, en fait. Tu vois, on m'a dit, c'est dans 3 semaines, tu dois faire une première partie, donc vas-y.
Ouais.
Mais, ouais, il y a vraiment eu... Oui,
mais c'est marrant. Alors, du coup, ça m'intéresse comme question. Est-ce que tu as fait des premières parties? Si oui, lesquelles? Alors, moi, j'avais lu Roman Frécinet.
Ouais, tout à fait.
Et Fary.
Et Fary aussi. J'en ai fait d'autres un petit peu. Rachid Badouri, qu'on embrasse.
Ouais.
Marina Rollman.
Oui, qu'on a reçu ici il y a quelques temps.
Ouais. En grosse première partie, pour l'instant, il y a eu ça.
C'est pas mal, hein, déjà.
Ouais, c'est cool.
Ouais, c'est clair, c'est classe.
Ouais. Écoute, même moi, avec un peu de recul, je réalise toujours pas comment c'est possible, mais c'est vrai que c'est des bons souvenirs, quoi.
Mm.
En plus, c'était une période de l'année, c'était en mai-juin, quand il commençait à faire beau et que c'était une belle période, ouais.
Mm. Dans quelle mesure t'es en processus de maturation et dans quelle mesure t'es en processus de construction scénique et peut-être aussi humaine?
Bah, j'essaie de moins en moins m'attacher à mes blagues. C'est-à-dire qu'il y a des... Tu vois, par exemple, là, j'écris assez souvent. Un truc que je faisais pas avant, parce que j'étais encore dans le truc un peu feignant de « on peut s'en sortir avec, en travaillant vite fait ». Et là, je me suis rendu compte, là, maintenant, qu'il y a une structure qui me produit et que c'est mon métier, que je fais ça à temps plein, que je pouvais pas passer au travers de ça, tu vois. Avant, j'avais la volonté de faire ça, mais je le faisais pas. Maintenant, j'ai la volonté et je m'oblige tous les matins à écrire 3-4 heures. Je sais pas si c'est beaucoup, mais en tout cas, je me force à le faire. Sauf ce matin où, malheureusement, je me suis réveillé à 10h40. Mais je m'oblige, en tout cas, ouais, y a une vraie volonté d'avoir de la matière, de la jeter, d'en avoir une autre encore mieux, etc.
D'accord, très bien.
Tu m'as dit la dernière question, c'était quoi ?
La dernière question,
c'est celle que tu viens de poser.
Est-ce que tu es en processus de construction ?
Oui, et humaine aussi, tu m'as dit.
Humainement,
ouais, tout à fait. Bah, c'est mon premier travail, on va dire, dans la vie.
Oui.
Enfin, c'est mon premier vrai taf. Tu vois, j'ai fait des petits trucs étudiants à côté, etc., des petits stages et tout. Et donc, oui, tu apprends, tu découvres ce que c'est travailler avec des gens plus âgés, des gens qui sont là depuis longtemps. Côtoyer des gens qui font ce métier depuis plus d'années. Enfin, ouais, ouais, bien sûr, j'apprends tous les jours là. Je suis obligé de me mettre au niveau, ce que je te disais un peu en off tout à l'heure, mais je suis obligé de ouais, je suis assez jeune dans le métier, tu vois, donc il y a des gens qui ont par nature quelques années de plus, donc je suis obligé de faire face à ça, de grandir aussi et de me mettre au niveau. Donc ouais, j'apprends autant sur scène qu'en dehors. Et la scène nourrit l'humain et l'humain nourrit la scène.
Y a une question qui va arriver après où je sens que tu as envie de parler de thèmes qui te sont chers, comme la fin de l'enfance par exemple. Ça, j'avais lu que tu avais envie de parler de la fin de l'enfance, de la fin de la jeunesse.
Ouais, je parlais un peu. C'était un petit bout que j'avais dans le spectacle qui maintenant est plus organisé comme ça l'était quand le journaliste du Parisien, Grégory Plouvier, qu'on embrasse, est venu.
Ouais.
Mais,
tu vas écouter, j'espère.
Comment ? Ouais, j'espère, écouter, bien sûr, j'enverrai. Mais ouais, je parlais un peu de ça, mais c'est plus ouais, des... Ça ressort à d'autres endroits du spectacle, mais on peut en parler aussi.
Ouais. Mais d'abord, est-ce que le stand-up, c'est un milieu, effectivement, où il faut parler fort et en imposer pour émerger ?
Alors, je pense qu'il faut parler fort, mais pas dans le sens littéraire. C'est-à-dire qu'il faut se faire sa place.
Ouais.
Tu vois, faut que...
Toi, tu parles pas fort du tout.
Sur scène, non. Non.
Mais tu avances à pas mesurer, mais important.
Bah, parler fort, ouais, c'est plus gagner sa place parce qu'il y a déjà des gens qui sont là depuis quelques temps. Donc, pas une hiérarchie, mais il y a des endroits où, comme dans toute, je sais pas, entreprise ou quoi que ce soit, il y a des plateaux sur lesquels tu peux pas jouer avant d'avoir fait tes preuves dans des plateaux plus petits et tout.
C'est sûr. Comme chez nous. C'est pour ça. C'est comme au Blonde Comedy Club, par exemple.
Ouais, exactement. Exactement. Bah, parler fort, je pense que c'est plus dans ce sens-là. C'est plus avoir un passage qui parle pour toi et se dire, ok, bon, lui, c'est quand même marrant, 9 fois sur 10, donc on peut l'inviter ici.
Quoique nous, enfin, c'est pas de l'autopromo outre mesure que je veux faire, hein. Mais nous, je sais pas si tu l'as vu, mais on avait un truc, tu sais, de découverte.
Non.
On a des jeunes talents que moi, je vais un peu voir un peu partout sur des open mic et tout, tu vois, et qui me paraissent très drôles, et qui viennent chez nous.
Okay.
En mode découverte, tu as jeune talent et tout, et qui cartonne.
Okay.
Je pense qu'aujourd'hui, les grosses scènes, comme tu dis, les gros plateaux où tu dois faire tes preuves avant, je pense qu'elles devraient un peu inoculer une dose de nouveauté, de jeunesse, tu vois, rassembler, quoi, tu vois.
Après, moi, je trouve, ça fait un peu partie du jeu aussi qu'il y ait des plateaux où quand tu commences, tu te dis, bon, je sais que quand je serai là, ça veut dire que j'aurai bien travaillé.
Ouais.
Et là aussi, j'ai pas mal de potes, tu sais, qui sont pressés de jouer dans des plateaux cool et tout. Et ils y arrivent un peu par certaines fois, pas par piston, mais par...
Par du réseau.
Ouais, par relationnel. Ouais. Et après, ils y sont. Et en fait, le niveau fait qu'il y a des gens qui ont mérité leur place grâce à leur niveau. Et du coup, ils passent au travers, tu vois.
Ah oui. Tu vois la différence très vite, quoi.
Ouais, tu vois un mec qui est arrivé là parce qu'il a eu des plateaux compliqués et qu'il s'est fait son niveau. Et tu vois le gars qui est arrivé par d'autres chemins.
Ouais,
qui est passé par la fenêtre, quoi. Et moi, je pense que c'est pas une bonne solution.
Ouais. Je pense qu'il faut pratiquer à mort pour après, ouais. Là, tu réfléchis un peu à l'américaine, quoi.
Bah, en fait, c'est que...
Drake.
c'est...
Parti d'en bas pour arriver en haut, quoi.
Je pense qu'il y a un... Comment dire ? Enfin, je te donne le premier truc qui me vient à l'esprit. En avril, là, j'ai gagné genre 2 soirées de sélection et j'ai joué dans un Zénith. 5000 personnes. Et ça faisait 1 an et demi que je faisais ça. Donc c'était fou, quoi.
Ouais.
Et je pense que de tous les gens qu'il y avait, j'étais probablement un des moins stressés. Alors que je suis assez stressé dans la vie. Mais c'est juste que j'ai fait tellement d'endroits horribles que le stress et la peur, je les ai eus avant, genre.
Ouais.
Tu vois, c'était... en nombre d'heures de scène, de temps passé sur scène dans des endroits compliqués, j'avais passé beaucoup de temps à faire des trucs un peu bourbier, tu vois. Donc arriver là-bas avec un micro qui marche et des gens, franchement, j'ai été serein. Et il y a des gens, je pense, qui n'ont pas passé autant de temps, qui veulent un peu sauter des étapes.
Ouais.
Et du coup, qui arrivent à des endroits et qui,
sans préparation,
qui ont des stress que tu dois avoir normalement avant. Tu vois ?
Ouais, ouais.
Et...
Est-ce que ça t'arrive de bider encore ?
Oui, oui.
Dans quel genre ? Dans les grosses salles ou plutôt dans les toutes petites salles ? Alors, où un public n'est pas forcément amène, tu vois.
Alors, vrai bide, dans le sens où bide malaise.
Ouais, non.
Non, mais aussi, je pense que c'est parce que j'essaie jamais vraiment 5-6 minutes, tu vois. J'essaie toujours 2-3 minutes, donc au pire du pire, c'est pas très bien.
Ouais.
Mais j'ai quand même des blagues pour me rattraper.
Ouais.
Après, il va falloir à long terme que j'essaie plus de temps, je pense. Donc là, ça risque. Mais après aussi, tu t'arrives un peu à l'esquiver, quoi.
Ouais.
Tu vois, c'est une... Et je me rends compte, là, c'est marrant, mais on aurait fait l'interview il y a 2 mois, je t'aurais pas dit ça.
Ouais.
Mais c'est surtout une attitude, j'ai l'impression.
Ouais.
C'est vachement physique, tu vois. Je sais que là, en 2 mois, j'ai beaucoup joué. Et quand je monte sur scène maintenant, par rapport au mois de septembre, il y a un truc juste visuel et dans la voix et dans le corps qui fait que je raconte aux gens, c'est moi qui suis marrant. Et c'est pas vous qui allez me dire quand je suis marrant.
Ah oui,
alors qu'avant,
tu l'as décidé, quoi.
C'était plus l'inverse, tu vois.
Ouais.
Et ouais, donc oui, ça arrive souvent qu'il y ait que des soirs tu sois moins bien et tout, mais vrai bide de moins en moins.
D'accord.
Bah, ouais. Mais bon, dès que tu te sens trop chaud, tu vas essayer 5 minutes et là, ça te calme très vite.
Ouais. T'es parti de Montpellier à ville d'où tu es originaire à 17 ans.
Exactement.
Pour Paris et le cours Florent, qu'est-ce que le théâtre t'a appris dans ta manière de jouer sur scène ?
Alors, j'ai pas fait le cours Florent dès que je suis arrivé.
Ouais, t'as suivi des cours en parallèle de tes études.
Ouais, j'ai fait des cours de commerce, une école de commerce.
Ouais.
Et j'ai fait le cours Florent 4 ans après. Bah écoute, je remercie beaucoup les deux profs que j'ai eus parce que j'aurais jamais fait, je pense, avec le recul, j'aurais jamais été aussi vite, même si c'est un grand mot, mais j'aurais jamais progressé aussi rapidement, je pense, parce que je vois l'évolution par rapport à il y a 2 ans sans ces profs. Je pense que ça m'a aidé à casser la barrière du public, surtout. C'est-à-dire qu'au début, il y a eu vraiment mes six premiers mois de stand-up, c'était même pas être marrant, l'objectif, c'était apprendre un texte, le réciter devant des gens et pas mourir de peur sur scène.
Ouais.
Tu vois, parce qu'il y avait vraiment le truc de « Ah mince, il y a des gens là et tout.
Ouais. »
Et là, tu vois, quand je te dis j'ai réussi à casser le truc un peu, c'est que quand je joue, je suis vraiment dans une bulle et qu'il y ait 5000 ou 3500 personnes ou 5 personnes.
Ah oui, d'accord. Donc la préparation, elle est surtout mentale, en fait, d'abord.
Je pense que j'ai le même rituel que depuis le début, mais c'est juste que maintenant, quand je monte sur scène, il n'y a plus personne autour. Tu vois ? Alors qu'avant, y avait vraiment le truc de mince. Je me voyais de l'extérieur et je me disais, oh là, je suis devant des gens, j'ai un texte à leur raconter.
Ah oui.
Et il faut que ce soit marrant, il faut que mon bras il fasse ça et
tu
tout. Alors que maintenant, je ne saurais pas comment te le décrire, mais je suis vraiment. C'est comme si j'étais dans mon salon, quoi.
Tu te mettais encore trop à leur place, quoi.
Ouais, je me voyais beaucoup trop de l'extérieur, en fait.
Ouais.
Et donc, il y a vraiment eu 6 mois de ça. Et le théâtre, en fait, j'ai eu des profs très, très durs. Notamment une qui m'a... je la remercie beaucoup parce que sans elle, j'aurais jamais...
On peut la citer, hein. Tu te rappelles
toi. Naïs Alfaciel, elle s'appelle.
D'accord.
Si tu veux que je te raconte la petite anecdote
Vas-y.
Si on a le temps ou c'est...
Allez, vas-y.
C'est rapide,
voilà,
mais...
Vas-y.
Moi, ça m'a énormément aidé, je pense, et c'est un des conseils que je garderai toute ma vie. En gros, en deuxième année de cours Florent, quand tu rentres, t'as 2 monologues à apprendre pour le jour de la rentrée. Et c'était un été, moi j'avais bossé genre 6 mois dans un magasin sur les Champs-Élysées qui s'appelle Abercrombie et j'ai fait genre du 7 jours sur 7 tout l'été, j'ai pas eu de vacances et j'ai eu 2 jours de vacances à la fin de l'été où je suis parti à la plage avec un pote et je me suis dit bon le monologue je vais l'apprendre vite fait sur la plage et tout. J'arrive là-bas au cours Florent le premier jour, elle fait passer tout le monde sur scène, elle leur fait réciter machin et je sais pas pourquoi je me chauffe, je me dis vas-y je vais y aller, je connaissais pas mes textes et je monte sur scène. Et elle me regarde de haut en bas, elle me dit « ça va ?» Je lui fais « ouais, ça va ?» et tout. Et elle me fait « bon, on dirait pas. » Je me prends une balle devant déjà toute ma classe.
Direct.
Ça fait 30 secondes que je suis là. Hein.
Ouais.
Elle me dit « ok, on dirait pas. » Elle me dit « t'as joué quoi comme pièce en première année ?» Je lui donne 2-3 trucs que j'avais fait, c'était des pièces comiques. Elle me regarde de haut en bas, elle fait « ouais, t'es marrant toi ?»
Yes,
bonne ambiance. Et tu sais, le pire, c'est que je suis habillé normalement et tout, il y a absolument rien qui fait que elle peut donner un avis.
Oui, c'est ça, ouais.
C'est juste, je me dis, mais attends, waouh, deuxième balle, le premier jour de la rentrée, c'est-à-dire je connais aucun de mes camarades dans la classe et tout. Et après, elle me dit, ouais, t'es allé voir des pièces l'an dernier. Elle me pose la question. Et moi, je commençais déjà un peu à jouer le soir et tout, donc je suis pas allé voir des pièces de théâtre. Et elle me dit, je lui dis non, pas vraiment. Et elle me répond, ah ouais, bah, tu sais quoi, ça se voit. Troisième balle, là, je suis décomposé. Au bout de 30 secondes, elle m'a anéanti le premier jour de la rentrée.
Ouais.
Elle me fait réciter mon truc. Au bout de 20 secondes, je perds mes moyens, je connais plus. Je suis défoncé, quoi.
Bah ouais.
Et elle me dit, allez, ça, c'est pas du travail, retourne travailler. Devant toute ma classe, je me prends la honte de ma vie le premier jour de la rentrée.
Ah ouais, donc ça forge déjà.
Je passe vraiment pour l'imbécile de la classe. Quoi.
Ouais, ouais.
Et en plus, j'avais, par malchance, j'étais dans une classe avec quand même des gens assez doués.
Ouais.
Donc je suis vraiment passé pour un tocard dès le premier jour.
Ouais, ouais, ouais.
Et là, je te jure, ça a débloqué. J'ai pas dormi, je pense, la nuit du truc. Genre, j'ai vraiment gambergé dessus toute la nuit et
Ouais, ouais.
Et je suis arrivé tous les autres cours avec une demi-heure d'avance, je pense. Et je suis parti avec. Enfin, je suis parti une demi-heure après tout le monde. Et il n'y a plus un cours de l'année. J'ai loupé zéro cours dans l'année. Je connaissais mes textes par cœur, sur le bout des doigts. Je passais toujours sur scène et tout.
Parce que c'est marrant, ça. Parce que ou d'autres se seraient dit, non, mais ouais, j'en ai rien à foutre. Me casse. On ne parle pas comme ça, tu vois. Toi, tu t'es accroché, quoi.
Le premier jour, il y en a un truc comme 6 personnes qui ont abandonné, qui ont changé de classe. Juste qui ont vu la prof, qui ont fait, ah, ok, elle parle comme ça, elle va te donner ça. Il y en a 6 qui ont abandonné.
Je pense que moi, je le prends sur la marche, je pleure devant elle.
Ah, moi, pendant une semaine, j'étais dégoûté, mais le deuxième cours, je suis arrivé, texte appris par cœur, une demi-heure avant, qui veut passer sur scène, j'étais le premier à sauter sur scène et tout. Donc, elle m'a mis une discipline et une exigence que je. Elle m'a fait comprendre que c'était un métier exigeant. Quoi.
Ouais. Et bah, du coup, c'est la réponse à ma question. Du coup, t'as eu raison de raconter cette anecdote.
Ouais,
du coup.
Ouais, mais
c'est beaucoup
ça,
plus, tu vois.
Franchement, je me rends compte que je marche beaucoup en prenant des murs.
Ouais.
Tu vois?
Ouais.
Je sais qu'il faut que.
Tu marches par réaction?
Ouais. Ouais, ouais. J'ai des caps quand même. Je vadrouille pas totalement. Je vagabonde pas totalement. Je sais un peu où je veux aller et tout. Mais il faut qu'il y ait des scènes qui se passent mal vraiment des fois où je me dis, ah ouais, putain.
Ouais.
T'as pas travaillé ou des trucs comme ça pour que ça avance.
Ouais. Tu marches par réaction, mais tu considères quand même quelque chose. Tu considères quand même le stand-up comme quelque chose finalement de très artisanal. Dans la construction, dans le jeu, dans tu vois tout ce que j'entends de toi depuis avant, c'est que tu conçois le stand-up comme un truc d'orfèvre, quoi.
Ouais. Enfin, ouais, ouais. Moi,
qui prend en compte notamment le théâtre, la littérature, la musique, ça va venir après, tu vois.
Ouais. Tu vois, quand j'écris, par exemple, moi, j'écris tout à la main, donc ça prend beaucoup de temps. Après, je retape tout à l'ordinateur, donc ça, j'y ai déjà.
Pour l'apprendre.
Ouais. Bah, je suis incapable d'apprendre sur papier. Il y en a, tu vois, qui, on en parlait avec des potes humoristes, il y en a qui montent sur scène, ils ont juste une idée et ils parlent. Moi, c'est impossible. Je peux faire ça sur 30 secondes, mais plus, c'est impossible. Il faut que j'ai appris mon truc par cœur, donc j'écris tout à la main, ce qui prend quand même plus de temps qu'à l'ordi. Après, je retape tout à l'ordinateur et après, j'apprends tout par cœur. Donc, ça prend beaucoup de temps, mais du coup, chaque mot est important. Et après, c'est un peu une contrainte parce que, tu vois, pour apprendre le... J'ai du mal à tester des trucs parce que ça me prend énormément de temps de l'écrire, de le réécrire et de l'apprendre. Donc c'est un peu une contrainte de temps, mais j'ai l'impression qu'à long terme, c'est plus efficace. De bien choisir un mot en particulier, etc. J'aimerais que si un jour mon spectacle, imagine, soit scripté, tu dises, enfin, tu te rends compte que chaque mot est choisi, qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard.
Est-ce que le titre de ton spectacle qui s'appelle Bientôt, tu vas nous dire d'ailleurs où tu le joues, c'est parce que tu l'as choisi, parce que tu le considères comme quelqu'un encore en construction?
Alors là, c'est le titre du rodage, c'est pas le titre définitif, d'accord. Mais du coup, ouais, c'était exactement.
Mais tu l'as pas appelé en rodage, tu l'as appelé Bientôt,
ouais,
là où tous les humoristes l'appellent en rodage.
Exactement, ben, moi je voulais absolument pas faire ça.
Bah ouais, non, parce qu'on est d'accord à 1000% sur ça. Ouais.
Et c'était plus dans le sens, je sais qu'il y a une petite attente, c'est un grand mot, mais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont vu, tu vois, en plateau, qui m'ont dit « Ah ouais, on aimerait bien venir te voir et tout. » Et au début, il y a une période où il faut construire un spectacle. Donc, tu vois, je disais « Ouais, mais ça arrive bientôt et tout. » Et je me suis dit « Bon, mal de l'appeler bientôt. » Mais il y a vraiment une idée de quand le produit sera prêt. Je le livrerai avec plaisir, mais pour l'instant, c'est encore en construction.
C'est joli parce que t'aurais pu l'appeler « Ça arrive lourd », mais t'as choisi « Bientôt », ce qui est quand même plus joli, je trouve.
Ouais, ouais, bah, c'était ma première idée d'ailleurs.
Ça arrive lourd, les frères, vous n'êtes pas prêts. Je crois que c'était vous n'êtes pas prêts.
Vous n'êtes pas prêts, les frères, exactement. Mais ça rentrait pas sur la fiche.
Et force à vous, c'était trop long.
C'était juste ça.
Ça va être un très très bon titre de spectacle. Est-ce que c'est vrai que les thèmes que tu aborderais dans un prochain spectacle, notamment la fin de l'enfance, poserait la question suivante. Qu'est-ce que Paul Mirabel aurait à dire sur la fin de l'enfance, justement? Et est-ce que tu as hâte de ne plus être un jeune homme?
Alors, je vois très bien à quoi il fait référence. J'avais un passage que j'ai un peu découpé dans d'autres endroits, que j'ai un peu replacé ces blagues dans d'autres parties du spectacle. L'idée, c'était que moi, j'ai fait école de commerce et là, c'est mon premier vrai travail dans la vie. C'est-à-dire que tous mes potes qui ont cherché un CDI direct, moi, j'ai pas du tout passé par cette étape et j'ai direct embrayé sur un truc d'humoriste. Et donc, pendant que j'étais en cours, je côtoyais déjà des gens plus âgés. Tous mes potes, là, c'est marrant, mais je vais avoir 24 ans. Ils ont plus 30, 35, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai vite côtoyé des gens beaucoup plus âgés.
C'est rassurant.
Ça m'a aidé, si tu veux. Ouais. J'étais obligé de me mettre au niveau, en fait. Tu vois, j'étais obligé de devenir vite un jeune homme, quoi. Je pouvais plus parler de... Enfin, j'ai jamais vraiment parlé de trucs d'enfant, tu vois.
Ça fait quand même longtemps que je te vois, moi. Ça fait deux ans, un
Exactement,
an.
Exactement, deux ans. Ouais. Mais je pense que tu m'as vu beaucoup. Ça fait pas longtemps, mais tu vois, j'ai fait quand même pas mal de trucs.
Moi, je t'ai vu trois fois en tout et pour tout, notamment chez nous, mais dans d'autres...
J'ai beaucoup joué, je pense, c'est pour ça. Et même, j'ai fait beaucoup, beaucoup de scènes. Je pense que... Ouais, c'est surtout ça aussi. Et c'était plus dans le sens, là, je me rends compte, je suis dans la vie d'adulte, quoi. Ouais. Tu vois, il y a des gens avec qui je parle et tout. Pour moi, c'était... L'an dernier, c'était un peu une... je voulais que ça soit mon métier, mais c'était pas concrètement mon métier. C'était une petite occupation du soir. Mais il y a des gens, des programmateurs, des producteurs et tout, eux, c'était le métier.
Ouais.
Donc, c'était plus dans ce sens-là de se rendre compte que c'est un métier et qu'il faut se mettre au niveau de gens qui travaillent vraiment pour ça depuis des années, quoi.
C'est marrant parce que pour toi, et on en parlait avant, le thème de la musicalité, c'est un peu comme du rap, alors que les deux genres, alors peut-être que je me trompe, mais les deux genres n'ont pas les mêmes vocations et pas les mêmes finalités en quelque sorte. Le rap, c'est vraiment très conscient et c'est en général pas très drôle, tu vois, alors que le stand-up, c'est vraiment l'art de la punchline et tout. Et est-ce que c'est juste dans la musicalité que tu rapproches les deux genres ou est-ce que c'est aussi dans le message, la vocation finale en fait des deux genres?
Alors, je pense que le premier truc, c'était plus dans le sens, au début, je sais pas si tu te rappelles de tes premières blagues ou ce genre de trucs.
Ouais, c'était horrible.
Mais en fait, je pense qu'au début, comme en rap, tu cherches ton flow.
Oui.
Tu vois, moi, il y a beaucoup de gars que j'écoutais au début, c'était très technique, mais ça voulait rien dire, en fait.
Ouais.
C'était juste, ça rime avec ça, ça rime avec ça. Et je pense qu'au début, c'est pareil quand tu fais des blagues, ça c'est marrant, ça c'est marrant, ça c'est marrant. Ah, par contre, ça veut rien dire. Enfin, si tu prends un peu de recul, ça veut rien dire. Après, je trouve que tu peux commencer à raconter des choses. Et là où c'est vraiment efficace, c'est comme en rap, quand ça rime et qu'en plus les deux phrases ont un sens, c'est là où ça te frappe vraiment, tu vois.
Ouais, mais le rappeur a un truc à dire au départ. Tu vois, et l'humoriste cherche encore pendant très longtemps qu'est-ce qu'il a à dire, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Je pense que ce qu'on dit parle plus pour nous que ce qu'on voulait dire à la base. Tu vois, par exemple, c'est exactement ce qu'il y a eu dans l'article qu'on a cité.
Ouais.
Moi, j'ai jamais voulu parler de la nouvelle masculinité ou ce genre de choses. Ouais. Et au final, le journaliste qui est venu me voir m'a dit « Ah ouais, ça parle de ça ». Mais moi, je me suis jamais dit « Je vais écrire sur ça
».
J'ai juste raconté des choses qui me sont arrivées. Et en fait, si tu te recules un petit peu, tu te trois pas en arrière et tu fais « Ah ouais, ça parle de ça
».
Et tu vois, par exemple, là, j'ai le titre du spectacle, je pense. Que je peux pas dévoiler.
Ah, dommage.
Mais
ça va être un truc assurément poétique.
Ouais.
Et littéraire. Je pense.
Je crois qu'on peut le dire, c'est dans ton cul. Voilà. Voilà, on lâche.
C'est DTC. Ça s'appelle comme DTC.
Ça. DTC. Il croit avec quoi?
Exactement. Donc, comme tu disais, très poétique.
Voilà.
Exactement. Ouais, ouais. Du Baudelaire dans le texte. Quoi.
Plus j'écris, plus je regarde de loin ce que j'ai écrit et plus je me rends compte que ça parle en fait. Tu sais, en plus, il y a un truc que j'écris à la main, donc j'ai l'impression qu'il y a un truc, je sais pas comment dire, mais très inconscient.
Ouais.
Tu sais, t'écris des trucs, ça vient de ta main qui est directement relié
à ton cerveau.
Au cerveau. Ouais. Et en fait, parfois, il y a des choses que j'écris, j'ai jamais voulu écrire sur ça. Et en fait, ça parle plus que toi, quoi.
Ouais.
Mais
c'est marrant, ça.
Penser à l'écriture automatique
pour
partir dans des sphères un peu littéraires.
Ouais, tu vois, sans réfléchir quoi.
Ouais.
Mais je pense que quand je parlais de rap, c'est plus J'aimerais bien arriver à avoir, si tu veux, ma musique et des punchs et que le tout raconte quelque chose. Parce que moi, je sais que quand j'écoute des trucs, c'est ça qui me touche. C'est il y a un mec qui est très technique, ça va me toucher. Un mec qui est très littéraire, mais qui est moins technique, ça va me toucher. Par contre, quelqu'un qui a les deux, ça, c'est ça fois 100, quoi.
Paul, après cette discussion très riche, très intéressante, qui exige beaucoup de concentration, pour le coup. Parce que quand on a des gens de talent en face de nous, dès le matin, parce que quand on a des gens de talent en face de nous, bien, ça exige toujours de la concentration. Je vais te laisser tout seul. Non, je vais te laisser faire ta promotion, dire où est-ce qu'on va te voir, quel plateau. Oui, c'est fini dans... Après ton...
Ah ouais?
Après, t'as pris des
paroles. Ah ouais, ça allait vite.
Ça fait 40 minutes qu'on... Je crois que ça fait 40 minutes, c'est ça.
Ouais. C'est ça.
Okay.
C'est passé super vite. Moi, j'ai l'impression que ça fait 15 minutes qu'on est passé...
Ouais.
Alors, j'avais peut-être une dernière question à te poser avant d'en arriver à la fin. Est-ce que j'ai tort si je dis que tes modèles à toi, c'est pas forcément des humoristes, mais plus des sportifs, des businessmen, des mecs qui sont partis de rien pour arriver tout en haut de la sphère, quoi?
Alors non, pas du tout de tort. C'est tous les gens qui réussissent m'inspirent.
Ouais.
Mais à n'importe quelle échelle, hein, que ce soit.
Et t'es un fan de foot en plus, donc c'est quand même beaucoup de footballeurs.
Ouais, beaucoup de gens, ouais. J'aime beaucoup les parcours où tu pars de pas grand chose et où tu fais tes armes et où t'arrives en haut.
C'est qui ton footballeur préféré par exemple? On a tous un, tu vois.
Moi c'est Ronaldinho.
Ah d'accord, pense, ouais. Ok. Moi c'est Thierry Henry.
Tu vois. Ok. Ouais. Ok. Ok.
Parce que c'est. Il y a quelque chose de félin. T'as la prise de balle, bam, direct, et puis la frappe qui, en général, notamment à Arsenal, elle finissait pratiquement toujours au fond, quoi.
Bah, moi, j'aime bien... En fait, quand t'aimes beaucoup le foot aussi?
Oui.
J'aime beaucoup le truc de personnage. C'est-à-dire, en mode, tu vas prendre une équipe à FIFA parce qu'il y a tel gars. Tu vois ce que je veux dire? Ronaldinho, si t'enlèves les cheveux, les dents et le signe de la main comme ça, et là, c'est plus Ronaldinho, en fait.
Oui, c'est vrai, complètement.
Tous les gens petits... Enfin, moi, je sais que... J'avais le maillot du Barça et je faisais ça parce que c'était le gimmick de Ronaldinho. Tu sais, c'est un côté genre, c'est un personnage. Et je pense qu'en spectacle, il faut avoir la même chose.
Ouais.
Et après, je me considère pas du tout venir d'en bas. Tu vois, j'ai des potes qui. Ça me met des baffes d'ailleurs. Moi, je sais que j'habite dans Paris, par exemple. J'ai des potes qui, après des scènes, ont 2 heures de RER pour rentrer à Trappes, tu vois.
Ah oui.
Donc pour moi, ils ont 10 fois plus de mérite.
Après, ils habitent à Trappes, toi, t'habites à Montpellier, tu vois, t'as quand même monté, tu vois, tout à Paris pour.
Tout le monde a ses petits combats, tu vois. Moi, je sais que j'étais très timide, donc c'est plus dans ce sens-là et tout. Après, je t'avoue que c'est beaucoup plus des rappeurs, moi, qui m'ont inspiré.
Ouais.
Et même en termes de productivité, tu vois, j'aime beaucoup les artistes qui. Comment dire? Qui écrivent, qui jettent.
Ouais.
Et en fait, tu vois vraiment la progression du gars, quoi.
Comme le rappeur Jul, par exemple.
Ouais, lui, il jette pas trop, c'est ça le problème.
Non,
non, mais tu sais, c'est genre par exemple.
Mais je vois à qui tu veux faire référence, t'as le Lunatic, IAM, NTM, du début des années 90.
Des mecs qui ont écrit beaucoup, beaucoup de choses.
Ouais.
Et en fait, tu te rends compte que tu vois une progression dans la technique, dans l'écriture et tout, juste parce qu'ils ont écrit beaucoup de trucs et qu'automatiquement, à chaque fois, c'est de mieux en mieux, en fait. Donc c'est plus dans ce sens-là. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup de modèles dans plein de trucs.
Ouais.
Tu vois.
Bon, bah, génial.
Ouais. Et toi?
Moi, c'est plus, c'est un peu comme toi, hein, genre Bernard Tapie,
Joseph Staline, truc horrible,
Marine Le Pen,
Goebbels. Voilà. Non, mais c'est plus, des businessmen.
Brandao.
Non, j'avais l'air de Brandao. Mais par contre, je suis supporter à mort de l'Olympique de Marseille. Et, et ce qui m'intéresse, parce que moi, je fais un peu comme toi, toujours des connexions entre le sport, la vie, le stand-up ou la littérature. Pour moi, tout est un peu lié.
Oui.
Et pour moi, je me suis toujours battu, entre guillemets, battu pour réussir. Parce que mon club préféré, qui est l'Olympique de Marseille, essaye toujours d'aller de l'avant, même dans ses phases d'attaque. Et c'est toujours porté par un peuple, par une ambition, par une âme, tu vois. Et c'est pour ça que moi, j'y pense souvent, mais inconsciemment, malgré moi.
Tu vois. On a parlé
même avant des scènes, par exemple, tu vois.
Tu penses à droit au but, quoi.
Ouais. Je me dis, là, tu vas essayer de rentrer, tu vas kicker, quoi. Tu vas essayer de, bam, prendre le truc direct, tu vois, par le coup, tu vois.
Bah c'est marrant, tu vois, Montpellier, c'est un club très familial, je sais pas si tu suis un peu, mais en gros, c'est une des
par seules... Par Michel Derzakarian.
Exactement, c'est une des seules équipes en France qui est gérée par la même famille, du coup.
Oui, par les Nicolas, ouais.
Je sais que je crois que ça se fait toujours, mais tous les anciens joueurs, on leur propose soit de réintégrer le club pour être éducateur, soit de réintégrer l'entreprise de gestion des déchets, tu vois.
Ouais.
Donc il y a un truc très famille et très avec beaucoup d'humilité, tu vois.
Ouais.
Je sais qu'il y a aucun joueur de l'équipe qui se prend pour quelqu'un.
Ouais.
Et dès qu'il y en a un qui commence un peu à prendre la grosse tête et tout, il se fait très vite remettre à niveau, tu vois.
Vous avez
des valeurs du club, et ça c'est un truc qui me motive beaucoup. Quoi.
Ouais.
Et je pense qu'on est. Moi je me dis en fait, t'as des bonnes blagues, mais tu seras toujours nul par rapport aux blagues en fait. C'est qu'un jour tu te sens trop bien parce que t'as fait 5 minutes, bah fais-en 5 nouvelles. Puis un jour tu te sens trop bien parce que t'as fait un spectacle, bah fais-en un nouveau.
Ouais, tu vois, on en revient à ce que tu disais, le fait de vouloir toujours être dans un cocon, dans un truc un peu familial, de confort. Ce que tu dis d'ailleurs dans tes interviews, tu dis pour moi l'humour, le stand-up, la scène, c'est un confort.
Bah moi je suis toujours angoissé, tu vois. Par exemple, là au bout de un an, j'avais un truc qui marchait bien, 5 minutes qui marchait bien, que je fais toujours. Là, le défi de cette année, c'était d'en avoir plusieurs, de me dire, par exemple, si j'ai 6 plateaux dans la soirée, est-ce que je peux en faire 6 différents?
Ouais.
Tu vois, ça, c'est là, ce que j'essaie de faire.
T'es un stakhanoviste de la scène. Hein.
Je suis pas encore à 6, mais ouais. J'ai quelques passages qui marchent bien. Après, je sais que j'aurai un spectacle. Donc, je vais le jouer un petit peu, je vais profiter. Dès que ça va bien marcher, je vais le poser sur mon étagère. Je vais dire, bon, ce serait bien de faire un autre spectacle. Donc,
ouais.
En fait, t'es jamais. Je me dis que t'es jamais arrivé nulle part. En fait, je mets pas du tout ma réussite dans des trucs matériels, tu vois. Genre, je me dis que je serai toujours inférieur par rapport à l'art qu'est le stand-up.
Ah, c'est
donc
beau,
en fait,
ça.
Je peux jamais être arrivé quelque part et je peux jamais me la raconter parce que t'as jamais fini le jeu, en fait, quoi.
Mm.
S'il faut faire 15 spectacles et que...
C'est pas... Je me trompe peut-être, mais c'est pas chez tout le monde qu'il y a cette humilité, quoi. C'est pour ça que je parlais d'artisanat avant. Parce que toi, j'ai l'impression que toute ta vie de stand-upper, tu t'en resteras à cette idée de l'humilité et de l'artisanat, que c'est juste en fait un art et qu'il nous survivra quand on sera plus là, tu vois.
Mais il y a vraiment un truc...
Comme la littérature, en fait. Comme les Nobel de littérature qui sont morts.
Exactement.
Mais qu'est-ce qui reste? Ben, c'est juste l'œuvre.
Exactement. Moi, j'ai vraiment envie que... Je sais pas, j'ose même pas dire le mot carrière parce que ça fait même pas longtemps que je fais ça, mais...
Ouais.
Si c'est le mot, enfin.
Oui, bien sûr.
Tu
oui,
vois,
oui,
bien sûr. À la fin de mon travail, j'ai vraiment envie que les gens se disent ah ouais, ok, donc ça c'était cool, ça c'était cool, ça c'était cool. En parlant de spectacle, si j'arrive à en faire plusieurs, on n'en est pas encore là, tu vois. Mais j'ai vraiment envie que ce qui reste, c'est pas moi, quoi.
Ouais.
C'est ce que j'ai fait avant, que les gens se disent ah ouais, ça c'était vraiment marrant et tout. Mais ouais, il y a vraiment un truc. T'as fait un bon passage, ok, et alors?
Ouais.
Tu vois, il y a vraiment un truc de. Dans l'absolu, c'est pas. T'es pas arrivé, quoi.
C'est marrant parce qu'il y a encore cette analogie, et on en aura très bientôt là, mais il y a cette analogie dans le foot,
ouais.
Qui est un joueur de foot. Moi, ce qui me fascine à chaque fois, c'est par exemple, je sais pas, quand Thierry Henry, à Arsenal, dans un gros match de Ligue des Champions, devant 50 000 spectateurs, marque un triplé, et ben Thierry Henry, quand il marque, bah pour lui, c'est normal.
Mm-hmm.
Limite, il sourit pas, il fête pas. Parce que pour lui, il a totalement intégré l'idée. Que c'était définitivement un des meilleurs joueurs du monde, qu'il aspirait à devenir une légende, comme Zidane, comme Romario, comme Ronaldo, comme tous les mecs que tu veux. Ils jouent devant, ils sont filmés, vus, revus, replay, on parle d'eux dans les médias tout le temps. Mais dans leur attitude, rien ne laisse à penser qu'ils ont que ça les dépasse, tu vois, ce qu'ils font.
Je vois ce que tu veux dire.
Quand Thierry Henry fait un but, ben il le fait pas. Il le fait pas, en fait. Il est complètement sérieux. Et en fait, il dit, bon, voilà, la balle au centre, quoi.
Ouais, c'est mon taf, quoi.
Ouais, c'est mon taf, c'est normal.
Bah,
alors que moi, je deviendrais fou, quoi. Je pèterais un câble. On en a déjà parlé, toi et moi, Raph.
Moi,
je pèterais un câble, mais je te jure que je...
En même temps, c'est normal, enfin, quand t'imagines la foule et tout. Mais c'est vrai que pour lui, c'est sa vie, quoi.
Ouais. Et toi, quand tu réussis une scène, par exemple, mais t'as pas envie de te mettre une murge, par exemple? Ou genre de fêter ça jusqu'à 5h du mat?
Bah, moi, tu sais, si on garde la comparaison du foot, je trouve que les deux, ça, on peut vachement comparer le foot et le stand-up.
Bah ouais.
Tu sais, il y a plein d'entraîneurs qui disent. Tu prépares un match toute la semaine, tu gagnes, tu profites une heure et après t'es déjà sur la semaine
ouais,
d'après.
C'est ça, exactement.
Moi, c'est exactement ça.
Ouais.
Tu vois, hier, l'Européen, j'ai fait mon passage, j'ai kiffé, j'ai eu de l'adrénaline pendant 3 heures, j'ai pas réussi à dormir. Je me suis réveillé ce matin, c'est fini, quoi.
Ouais.
Je vais pas en parler toute ma vie. J'ai ma petite une chez moi que je vais garder. À chaque fois que je vais passer devant, je vais avoir mon petit sourire, mais c'est fait, c'est fait.
Ouais.
Maintenant, faut passer à autre chose. Et il faut faire d'autres passages, d'autres trucs et tout.
Ouais.
Mais je vais jamais m'arrêter et me dire, t'as vu, ouais, il y a 7 ans, j'ai quand même fait l'Européen. Tu vois?
À tes enfants, tu te rappelles de l'Européen?
C'est cool, mais moi, quand j'aurai fini de faire ça ou quand je ferai autre chose, je serai content qu'il y ait des trucs sur mes étagères pour me le rappeler. Mais factuellement, c'est passé, quoi.
Ouais.
J'ai envie d'avoir d'autres blagues, d'autres blagues, d'autres blagues.
Eh ben, c'était vachement, vachement, vachement intéressant.
Carrément.
C'était merci magnifique,
toi.
Vraiment.
Merci à toi, surtout.
Bah, merci, c'était top. Et bah, du coup, où est-ce qu'on peut te voir? Je te laisse la parole pour te dire absolument toutes tes actualités.
Ah, bah, c'est gentil. Bah, alors déjà, normalement, on va essayer le 11 décembre au Blonde Comedy Club.
Oui.
Alors, je suis très content. Ça, j'ai énormément kiffé.
Bah, nous, on a kiffé.
Franchement, ça fait longtemps que je ne m'étais pas amusé comme ça.
Ouais, c'était vraiment trop chouette.
Les gens ont kiffé aussi.
Grave.
Sinon, je fais un rodage de mon spectacle. Rodage, ça veut dire qu'il y a des blagues marrantes et d'autres, on vit une aventure ensemble.
C'est moins marrant. Voilà. Oui, voilà, c'est ça.
Tous les mercredis et jeudis à la Petite Loge. C'est une toute petite salle.
Qui est dans le 9e.
Qui est dans le 9e, c'est 16 mètres carrés. Ça fait genre 25 personnes.
D'accord.
Mercredi, jeudi, jusqu'à fin décembre. Après, à partir de janvier, on passe à mercredi, jeudi, vendredi. Et on espère, normalement, avant la fin de la saison, passer dans une salle un peu plus grande avec le vrai titre. Le vrai spectacle, même si ce sera jamais terminé et que je vais toujours modifier des choses, tu vois. Mais si vous voulez venir vous voir pour l'instant à quoi ça ressemble, voilà.
Avec grand plaisir. Et le Zénith, bientôt, peut-être ?
Non.
C'est tout ce qu'on te souhaite.
Ah ouais, je sais même pas si j'ai envie.
D'accord, ok.
Ouais, je te jure. Si les gens, l'attente et l'engouement fait que c'est faisable, pourquoi pas ? Mais je serais pas malheureux si j'en fais pas, quoi.
D'accord.
J'ai déjà dépassé mes espérances depuis tellement longtemps que... Genre juste, je pense, le jour où j'ai mis un pied sur scène, où j'ai fait rire et où même pas on m'a payé pour... Même sans qu'on me paye, je pense que j'étais content.
Ouais.
Donc là, c'est que du bonus. Bah
c'est cool parce qu'au Blonde Comedy Club, on va pas te payer une...
Le mec est horrible.
Ah oui, d'ailleurs, par rapport à la dernière fois...
Allez, générique, c'est la fin de l'émission.
Allez, c'est la fin, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Mais 50 balles, tu vois. Non mais voilà, c'est que du bonus.
Ouais.
Je peux pas, tu peux que être déçu après quoi. Si t'espères faire un, bien sûr que si je peux faire un Olympia avec plaisir, tu vois. Mais je vais pas mourir frustré si.
Ouais.
C'est cool.
Je te souhaite vraiment tout le meilleur et
de même.
On croisera très bientôt et on se dit merci infiniment, Raph.
Merci à vous, merci les gars.
Ce moment magnifique était une bulle dans le temps.
Exactement.
Vraiment.
En ce mardi matin. Je sais pas si on est mardi. Peut-être on va sortir, on sera vendredi. Là.
On est mardi matin, exactement. Okay. Bien joué. Et on se dit évidemment à très bientôt pour un nouvel épisode de LOL Meet Tender.
Allez.
Bisous.